C'est bon.
C'est bon. Alors, bienvenue à cette séance du 17 février 2021. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour qui vous a été proposé. Alors, est-ce que des ajouts? Annick m'a fait part d'un ajout. Oui, Annick?
On va prendre des présences avant de commencer.
Oui, les présences, excuse.
On va prendre les présences avant de commencer.
Oui, vas-y, Annick, prends les présences.
Donc, M. Sartorois.
Présent.
Monsieur David Christopher.
Présent.
Monsieur Jean-Yves Turmel.
Présent.
Monsieur Luc Dion.
Présent.
Monsieur Yvon Dumont.
Présent.
Monsieur Yves Turgeon.
Présent.
Monsieur Martin Lacasse.
Présent.
Madame Guylaine Aubin.
Présent.
Monsieur Sébastien Bourget.
Présent.
Madame Manon Goulet.
Présente.
Monsieur Germain Caron.
Présent.
Monsieur Martin Gicoté.
Présent.
Monsieur Bernard Morin.
Présent.
Monsieur Denis Laflamme. Monsieur Éric Tessier.
Présent.
Monsieur Jacques Bruneau.
Présent.
Monsieur Pascal Fournier.
Présent.
Monsieur Daniel Pouliot.
Présent.
Monsieur Gilles Breton. Je vois que Gilles est là.
L'iPad est là, mais...
Monsieur Christian Lacasse.
Présent.
Parfait, merci.
Donc, on revient au projet d'ordre du jour. Il y avait un point, Annick, que tu voulais rajouter à 12.4. Ton micro.
Désolée. Donc, point 12.4, parc éolien et redistribution des profits. Est-ce que vous avez objection à ce que j'ajoute ce point à l'ordre du jour?
Du tout.
Non, non.
Tout à fait d'accord.
Quand on parle de profit, or, sinon, ça prendrait une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour.
Le propose Yvon.
Yvon et Manon.
Oui.
Procès verbal de la réunion du 20 janvier 2021. Vous avez pris connaissance. Questions, commentaires ou adoption? Martin?
Il y a place qui a marqué Manon Roy.
Oui, c'est ça exactement. 7.1.7, Annick. C'est Manon Roy. Je ne la connais pas encore. Fait que ça doit être Manon Goulet.
À deux places.
Et les traitements de texte, qu'est-ce que ça fait?
Non, c'est le COVID-19 fait changer, peut-être.
Okay.
Et je le propose, M. le préfet.
Martin le propose. Qui seconde? Martin Lacasse. Les deux Martin nous proposent ça. Même chose maintenant au point 4, compte et recettes du mois. Alors, questions, commentaires ou adoption? Pas de questions, pas de commentaires. Proposition?
Propose.
David, Christopher et Jean-Yves Turmel. On est maintenant rendu aux rencontres. C'est des rencontres d'une quinzaine de minutes. Alors, première, PDZA, plan d'action 2021. Je te laisse le soin d'introduire, Annick.
Oui, on va avoir une petite inversion. Dans le fond, dans la présentation, la première présentation, ça va être la présentation au niveau des PRMHH. Donc, on va avoir des personnes qui vont venir nous faire le topo là, à propos de ce dossier-là. Là, vous savez, c'est un dossier qu'on a décidé de traiter de façon régionale, donc toute la Chaudière-Appalaches ensemble. Donc, on va avoir Mme Josée Breton, Monsieur Mathieu Gagné et Monsieur Éric Olivier qui vont venir nous faire le topo de où est rendu ce projet-là. Alors, je ne sais pas si Louis, de ton côté, tu as une autre introduction à faire avant de laisser place là, à Mme Breton, Monsieur Olivier et Monsieur Gagné.
Dans le fond, je vais laisser Mme Breton introduire Monsieur Olivier et Monsieur Gagné. Mme Breton s'occupait auparavant, dans le fond, de toute la planification au niveau du PRMHH. Maintenant, elle est rendue au Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches, mais une demande a été, dans le fond, adressée à elle pour pouvoir effectuer cette présentation de ce soir parce qu'elle connaît très bien, dans le fond, le dossier du PRMHH. Peut-être, José, dans le fond, je vais te laisser t'introduire et introduire les deux autres participants.
Oui, tout à fait. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Comme le disait Louis, j'ai coordonné le PRMHH pendant une année avant de me joindre au CRECA. Et puisque vous êtes la sixième MRC que l'on rencontre lors de la tournée des MRC, bon, mais je poursuis, mais cette fois-ci à titre de membre du comité de coordination. On pourra en parler tout à l'heure, mais dans le comité de coordination du plan régional sur les milieux humides et hydriques, il y a des représentants, bien sûr, des MRC, des organismes de bassin versant et du Conseil régional de l'environnement. Et avec moi également ce soir, se joignent M. Mathieu Gagné, qui est aménagiste à la MRC de Lotbinière, qui, comme vous le savez, est la MRC gestionnaire de l'entente régionale, donc du plan régional sur les milieux humides et hydriques, et aussi M. Éric Olivier, que vous connaissez peut-être, qui est maintenant un jeune retraité, était directeur de l'aménagement du territoire à la MRC de la Nouvelle-Beauce, qui se joigne également à moi. Je vais faire la présentation qui devrait durer entre 15 et 20 minutes et par la suite, vous pourrez poser des questions, puis aussi poser des questions au courant de la présentation, ça ne me gêne pas du tout. Mathieu et Éric seront là aussi avec Louis, bien sûr, pour répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Je pense que je peux partager mon écran, sauf erreur. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran?
Oui.
Parfait. Donc, on commence. Donc, voilà, belle photo de milieu humide et hydrique. Le plan de présentation. Donc, un court rappel sur la démarche du PRMHH. C'est quand même un plan qui a débuté en septembre 2019. Donc, ça fait quand même un petit bout. Donc, on va faire un petit aperçu, un bref aperçu de ce qui s'est passé depuis le début. On va par la suite passer au portrait des bassins versants de la MRC de Bellechasse. Et par la suite, il y aura une période de questions. Donc, c'est tout simple. Voilà. J'ai un petit peu peur. Est-ce que j'ai manqué? Non, voilà. OK. Donc, d'abord, des précisions sur le contexte. Le PRMHH, c'est un outil de planification comme un PDZA, donc comme un plan de développement de la zone agricole qui découle de la loi sur l'eau. On le voit ici, là, le PRMHH se trouve ici. Donc, c'est vraiment un outil de planification territoriale au même titre qu'un PDZA avec son plan d'action, avec son portrait dont on va parler aujourd'hui. On le confond souvent avec le fameux règlement sur la compensation pour l'atteinte de milieux humides et hydriques que l'on voit ici, qui découle, lui, de la loi sur la qualité de l'environnement, comme tous les autres règlements qui existent. Mais quand on parle du PRMHH, on parle vraiment d'un outil de planification territoriale, donc c'est quelque chose de très différent. Donc, ce soir, on va vraiment se pencher sur le PRMHH et non pas sur les questions portant sur les règlements. Donc, je le disais, le PRMHH, c'est un outil de planification territoriale. Il va permettre à chacune des MRC de mieux comprendre le territoire et aussi de comprendre les différents services écologiques qui sont rendus par les milieux humides et hydriques. Parmi les services écologiques là, qu'on pourrait noter, il y a la filtration de l'eau contre la pollution qui nous permet d'avoir un meilleur approvisionnement en eau potable et aussi la réduction des risques des inondations. Donc, le PRMHH va servir à ça. Le PRMHH va également proposer des actions. Comme tout outil de planification territoriale, à la fin du processus, on sera en mesure de proposer des actions. En fait, vous allez proposer des actions qui vont aider par la suite à mieux conserver les fonctions écologiques dont je parlais. Donc, les différentes étapes du PRMHH, j'en parlais tout à l'heure, ça a commencé en septembre 2019 jusqu'en février. C'est l'amorce de la démarche. Vous savez, en Chaudière-Appalaches, on le disait tout à l'heure, c'est la seule région où l'ensemble des MRC, les 10 MRC se sont regroupés, en fait, et la ville de Lévis, se sont regroupés pour réaliser leur plan régional que chaque MRC doit adopter. Donc, pour ça, on fait vraiment figure je veux dire, disons qu'on fait très bonne figure parce qu'il y a une belle collaboration à l'échelle régionale. Donc, par la suite, jusqu'en septembre 2020, on a fait le portrait du territoire. Bon, je disais tout à l'heure, vous êtes la sixième MRC que l'on rencontre ce soir. Donc, la tournée des MRC a commencé à l'automne, à la fin de l'automne 2020, pour présenter le portrait du territoire. C'est sûr que c'est quand même 150 pages de contenu. On ne va pas regarder tout ça en détail ce soir, mais on va quand même avoir un bref aperçu là, pour que vous puissiez vous familiariser tranquillement, pas vite, avec le contenu du plan. Là où nous en sommes rendus présentement, c'est au diagnostic des milieux humides et hydriques. Je parlais tout à l'heure des fonctions écologiques. Le diagnostic va nous permettre de mieux comprendre les fonctions écologiques, qui va nous permettre de mieux identifier quels sont les milieux humides et hydriques d'intérêt. Par la suite, on va procéder aux engagements de conservation et à la stratégie de conservation, qui est un autre terme dans le fond pour le plan d'action. Donc, le tout devrait être finalisé, en fait, doit être finalisé et adopté en avril 2022, qui est la date butoir que nous a donnée le ministère de l'Environnement. Si vous avez des questions, vous me le direz. Je ne vois pas les questions dans le chat. Peut-être, Louis, moi, je te vois, là, tu peux me faire signe si jamais il y a des questions qui se présentent. Les étapes du PRMHH, bon, vous voyez ici deux encadrés. Là, pourquoi ils sont séparés? C'est que les étapes 1, 2 et 3, la préparation et l'amorce de la démarche, le portrait et le diagnostic, c'est une approche commune. Donc, l'équipe de réalisation, qui est composée, entre autres, de Mathieu qui est parmi nous, mais aussi d'un analyste, d'un coordonnateur, travaille ensemble pour faire ces trois étapes-là. Et par la suite, quand on va faire les engagements, soit les engagements de la MRC et le plan d'action, on va vraiment travailler au sein des MRC de manière plus individuelle. C'est sûr que l'équipe de réalisation va être encore là pour appuyer, pour aider les MRC dans le processus, pour partager les informations, pour aider avec la prise de décision en fournissant les renseignements, mais on va vraiment travailler davantage par des ateliers au niveau des MRC. Voilà. Maintenant, les activités de consultation, de concertation et de communication. Donc, je parlais tout à l'heure de l'équipe de réalisation. Je vous rappelle aussi que le PRMHH a créé un comité de coordination. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Le comité de coordination, il est formé de 5 représentants de MRC de la ville de Lévis, du CRECA, donc du Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches, de 2 organismes de bassin versant et aussi de la table de concertation régionale de la zone de Québec, donc pour ce qui est du volet fleuve. Le comité de coordination, le COMCO, travaille à prendre des décisions administratives, des décisions méthodologiques. On a aussi un comité méthodologie, on a aussi un comité géomatique. Et on a aussi une équipe qui travaille sur les consultations et sur la concertation entre les différents intervenants. On s'entend que Chaudière-Appalaches, c'est 136 municipalités, c'est 10 territoires. Il y a beaucoup de gens impliqués dans le processus, puis on n'a vraiment pas lésiné sur les efforts pour récolter les observations, pour inclure les commentaires, les connaissances des différents intervenants du milieu et aussi du grand public. Donc, c'est vraiment un bref aperçu. Là, on a fait au mois de février 2020, on dirait que ça fait une éternité avec la COVID, là, qu'on s'est tous retrouvés plus de 300 personnes ensemble là, pour discuter du forum. Je suis certaine que certains parmi vous étaient présents. On a aussi fait des consultations, bien sûr, avec l'ensemble des organismes de bassin versant. Il y en a 9 sur le territoire et les 3 tables régionales pour la zone fleuve qui sont sur notre territoire. On a également, bon, je vous en parlais, fait une tournée des conseils qui est encore en cours. Et on a fait un sondage auprès du public où il y a plus de 300 personnes qui ont participé là, à l'échelle régionale. Pour la concertation, on a créé des comités sectoriels, donc des comités sur l'agriculture, la foresterie, l'urbanisme, l'eau et l'environnement. Il y a 52 membres dans ces comités-là et on s'est assuré d'une bonne représentativité régionale pour chacun des comités. On a fait avec eux jusqu'à maintenant 3 ateliers dans le but d'aller chercher leurs connaissances terrain pour être capable de nourrir le portrait qu'on vous présente ce soir, mais aussi le diagnostic. Donc, on a fait, vous êtes sûrement familiers, là, ceux d'entre vous qui avaient participé à d'autres outils de planification territoriale, on a fait des exercices de force, faiblesse, opportunité, menace par secteur d'activité. Donc, de voir les forces et les faiblesses au niveau de l'agriculture, de la foresterie, de l'urbanisme en lien avec les milieux humides et hydriques. Quels sont les bons coups, quels sont les moins bons coups. On a aussi fait le même exercice par bassin versant. Donc, vraiment de regarder à l'échelle plus locale pour voir quelles étaient les forces et les faiblesses de chacun des bassins versants. Et par la suite, on a fait un autre atelier avec les mêmes 52 membres pour discuter des objectifs et des moyens de conservation par bassin versant. On a un peu dans ce sens précédé là, par quelques mois le fameux plan d'action qu'on va faire l'année prochaine pour déjà réfléchir à, bon, maintenant qu'on aura fait tout ce travail de diagnostic, quelles seraient les actions qui seraient intéressantes pour le secteur agricole, pour le secteur de la foresterie, puis qui viendraient du milieu, puis qu'on pourrait intégrer dans le plan d'action. C'est une réflexion qui est en cours, on a travaillé là-dessus également. Bon, c'est sûr que, je disais tantôt, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de personnes impliquées qui sont intéressées par les milieux humides hydriques sur le territoire. Donc, on fait également, vous les avez peut-être déjà lus, là, on rédige également 4 infolettes par année. Il y a un site web qui est associé au PRMHH. Et on a également organisé des visites guidées pour les élus en milieu humide et hydrique. Donc, nous allons en organiser une cette année dans la MRC de Bellechasse. Donc, soyez à l'affût, là, vous êtes tous invités à l'avance. Nous sommes en train d'identifier un lieu qui serait intéressant, mais aussi accessible, parce qu'on ne veut pas vous retrouver avec des bottes jusqu'aux genoux, là, les fameuses bottes qu'on doit mettre quand on marche dans les cours d'eau. Là, on essaie de trouver un endroit qui serait intéressant pour tout le monde et qui présenterait une belle diversité de milieux humides et hydriques. Alors, voilà. Bon, le portrait du territoire, c'est vraiment le cœur de la présentation de ce soir. Je le disais tantôt, le portrait du PRMHH à date, parce qu'il reste toujours certains éléments à bonifier, fait plus de 150 pages. Donc, on va vraiment se concentrer ce soir sur le portrait environnemental, parce que je considère que vous avez sûrement déjà une bonne connaissance du contexte d'aménagement de la MRC de Bellechasse. Donc, on voit ici une carte de la Chaudière-Appalaches avec toutes les zones de gestion intégrée de l'eau de la Chaudière-Appalaches. Là, on dit zone de gestion intégrée de l'eau. Chacune de ces zones sont sous la responsabilité d'un organisme de bassin versant. Sur votre territoire, vous avez en fait deux zones et des poussières. Donc, vous avez bien sûr le bassin versant de la rivière Etchemin qu'on voit ici en rose, et aussi le bassin versant de la côte du Sud qui rassemble de nombreuses rivières, dont la rivière Boyer. Et vous avez un 5 km² ici là, de bassin versant, du fleuve Saint-Jean. Donc, ce soir, on va seulement vous présenter les données pour le bassin versant de la rivière Etchemin et aussi de la côte du Sud. Donc, rapidement, pour ce qui est du bassin versant de la côte du Sud, bon, vous le connaissez bien, il y a une forte occupation agricole dans la plaine, il y a une prépondérance du milieu boisé également dans les Appalaches. Il y a certaines pressions de développement là, dans des secteurs dont le nord de Bellechasse, le long du fleuve Saint-Laurent et aussi autour des lacs de villégiature. On a ici une fameuse carte là, d'occupation du sol qui a été faite par notre équipe de géomatique, dont vous voyez ici, là, on en parlait, toute la section sud, la section des Appalaches qui est fortement boisée. Et après ça, ce qui est en jaune, c'est ce qui est principalement agricole. Et ce qui est en mauve, c'est les milieux humides. Donc vraiment, au nord de votre territoire, vous avez quand même de beaux milieux humides qui apportent des belles fonctions écologiques là, sur le territoire et que vous partagez entre autres avec le territoire de la ville de Lévis. Bon, un peu de chiffre là, 62% du bassin versant, si on regarde l'entièreté du bassin versant de la côte sud, est composé par le milieu agricole. Il y a 45% qui est en prairie ou pâturage, 19% soya, 17% céréales, 16% en maïs. Et autour des milieux humides, là, donc 30 mètres autour des milieux humides, il y a 35% du territoire qui est agricole, 48% forestier. Et au total, si on regarde à l'échelle de l'ensemble du bassin versant, il y a 78% de la zone des Appalaches là, qui est boisée. Je vous parle de bassin versant parce que, vu que c'est un plan régional des milieux humides et hydriques, donc des cours d'eau, on travaille vraiment par bassin versant. Donc, on travaille dans une logique de proximité, de travail inter-MRC parce que ce qui se passe en amont, en haut de la montagne, va avoir un impact avec ce qui se passe en aval, donc dans la vallée. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on présente les données, c'est pour l'entièreté du bassin versant. Même si vous allez voir, il y a des spécificités qui sont pour la MRC de Bellechasse, puis dans le portrait, vous allez les retrouver, ces spécificités-là. Bon, c'est une autre manière de regarder l'occupation du sol. Donc, on voit qu'il y a 25 % du bassin versant de la côte du sud qui est des milieux humides, qui est agricole, 11 % des milieux humides. Le milieu anthropique est de 3 %, donc quand même assez faible, donc le milieu qui est développé. Et on voit le milieu boisé très fort, 59 %. Par contre, il y a un certain pourcentage dans ces milieux boisés-là qui sont des milieux humides, donc des marécages ou des tourbières boisées. Bon, cette carte-là, c'est la carte qui présente les milieux humides et les zones inondables. Donc, vous avez ici en rose pâle les zones inondables qui sont au schéma d'aménagement et ici les autres zones inondables là, qui sont entre autres sur le bord du fleuve. Donc, chez vous, on en voit qu'on en, bien, vous les connaissez, hein? On en retrouve autour, beaucoup autour du bassin versant du bras Saint-Michel, et également sur le bord du fleuve et un petit peu autour du bassin versant de la Fourche. Et on voit ici, là, en vert, on voit ici des belles tourbières. Si vous avez des questions, encore là, je ne les vois pas. Là, vous pouvez me poser à la fin si je ne vois pas, là, si je vais trop vite. Les milieux hydriques, donc... ce que vous voyez maintenant, c'est une carte, la cartographie là, de tous les cours d'eau qui ont été répertoriés, qui ont été reconnus dans le cadre du PRMHH. Il y en a d'autres qui sont intermittents, qui pourraient ne pas se retrouver sur la carte parce qu'ils n'ont pas été cartographiés. Par contre, c'est la majorité des cours d'eau sur votre territoire. Et ce qu'on voit ici, on voit des indices de qualité de l'eau. On voit les cercles ici. Ce sont les endroits où se trouvent les stations d'échantillonnage. Et c'est une des choses qui nous intéresse beaucoup dans le PRMHH parce que, puisqu'on parle de...
On l'a perdu?
Oui, José, on ne t'entend plus.
Un peu.
Dans le PRMHH. Oui?
Bon, on t'a perdu une secousse.
Retrouvé.
Est-ce qu'il y a une question?
Non, c'est parce qu'on t'avait perdu, mais là, on t'a retrouvé. Fait que
pardon. Je suis désolée. Quel bout que. Est-ce que vous avez entendu quand je parlais de qualité de l'eau?
Après la qualité de l'eau.
Je peux continuer? OK, parfait. Parfait. Je dois avouer, hier, depuis la tempête, là, ça fluctue, ma connexion Internet, donc je croise les doigts pour que ça tienne pour le reste de la présentation. Donc, voilà, je vais vous présenter maintenant, vous êtes sûrement familier avec la qualité de l'eau dans le bassin versant de la côte du Sud, la zone de la côte du Sud. La rivière Boyer, c'est celle où on trouve trois stations d'échantillonnage pour mesurer la qualité de l'eau. La qualité de l'eau qu'on utilise, la méthode d'échantillonnage s'appelle l'IQBP. C'est 6 paramètres, dont la chlorophylle, les coliformes fécaux, le phosphore, l'azote, mais les nitrates, nitrate. Donc, c'est vraiment ça qui est mesuré dans l'IQBP. Et on voit ici les variations en 2015 et 2019. Il y a 6 échantillons qui sont pris par année. Et ce qu'on voit, c'est que la qualité de l'eau dans ce bassin versant, vous êtes sûrement familier, n'est pas très bonne. Donc, ça varie entre de qualité douteuse pour ce qui est ici au pont 281 au sud-est de Saint-Michel-de-Bellechasse en 2016 à une eau de très mauvaise qualité. Si on se pose la question à savoir pourquoi, bien, c'est des facteurs variables. On n'a pas de réponse définitive encore, mais on est encore en train d'analyser les données. C'est clair qu'il y a une portion, compte tenu du fort l'exploitation agricole du nord de ce bassin versant-là, peut y contribuer, mais d'après ce que me disait Louis, il y a également des indicateurs selon des analyses que vous avez faites récemment qui démontraient qu'il y a également de la pollution diffuse qui pourrait être en cause, donc de nature urbaine. Et potentiellement en lien avec les installations septiques. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on est en train d'analyser.
J'aurais une question.
Oui, allez-y.
L'autre avant.
Je retourne, oui.
OK. Boyer-Sud au pont de la route Étrière, c'est pas la route Gosselin? La route Picard, je veux dire.
Mathieu, tu es là?
Oui, je suis là, mais j'avoue que je ne peux pas. D'autres, c'est seulement l'information que j'ai, là, donc je ne sais pas si Louis connaît ces secteurs-là, là, mais.
Ben, moi, je connais, je suis Saint-Charles. L'Étrière, c'est pas dans ce bout-là.
C'est ce qui est indiqué à la station d'échantillonnage dans le répertoire du ministère. Fait que, on peut vérifier. Ouais, c'est ça.
On va se prendre une note.
C'est probablement pas à proximité de la route de l'Étrière. Peut-être que le nom de la station, ça s'appelle route de l'Étrière.
Ouais.
On va noter ça, là, M. Lacasse, puis on va regarder ça. Là.
Okay.
Tout à fait. Peut-être que le libellé n'est pas le bon dans ce cas-là. Ce serait intéressant de pouvoir indiquer de manière plus claire à l'endroit exact où ça se trouve pour que vous puissiez vous situer mieux.
OK.
On va vérifier ça. Merci.
Oui, merci pour la question. Donc, on a fini le portrait de la Côte-Sud. On va passer à la rivière Etchemin. Donc, c'est une zone de gestion intégrée. Là. Vous vous souvenez, le fameux... écoute, je ne sais même pas comment dire l'acronyme, le ZJ, si ça ne se dit pas très bien, qui est situé entièrement en Chaudière-Appalaches. Donc, le bassin versant principal, je le disais, c'est la rivière Etchemin. Donc, vous partagez ce bassin versant avec de nombreux territoires. Donc, la MRC de Bellechasse, la MRC de la Nouvelle-Beauce, les Etchemins, Lévis et aussi la MRC Robert-Clich. Donc, on a encore ici la couche d'occupation du sol. C'est le même portrait, hein, je vous dirais, à part pour la rivière Chaudière, qui est un peu différent. Pour l'ensemble de Chaudière-Appalaches, là, le sud, c'est essentiellement boisé dans les Appalaches et le nord est essentiellement agricole. On voit ici également, comme pour ce qui est de la portion est de votre territoire, que vous avez quand même des beaux milieux humides ici, là, proche de la ville de Lévis. Donc, c'est vraiment intéressant là, de ce côté-là de votre territoire. Une autre façon encore de le voir en pourcentage, on voit que ça ressemble beaucoup à vraiment énormément là, à votre autre secteur. Maintenant, on a ici une carte sur les zones inondables. Donc, on voit ici les zones inondables au schéma d'aménagement en rose pâle qui sont présents dans une bonne partie, dans de bons secteurs là, à la rivière Etchemin. Et on voit ici également les tourbières et les autres milieux humides qui sont très présents, mais davantage au nord et un peu ici dans le bassin versant des Abénaquis. Oups, pardon. Je passe trop vite. Donc, il y a une station d'échantillonnage. Là, on voit encore ici la carte des milieux hydriques. Donc, il y en a deux stations d'échantillonnage. On va regarder, je vais vous montrer tout de suite, là. Voilà, l'indice de la qualité de l'eau à la rivière Etchemin et la rivière Le Bras. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'une meilleure qualité d'eau, surtout à Saint-Luc-de-Bellechasse, là, qui est quand même plus en amont. Donc, une qualité de l'eau intéressante, de bonne qualité. Et davantage qu'on se déplace vers la rivière Le Bras, la qualité de l'eau, elle se dégrade tranquillement. Il faut dire que c'est assez fréquent, là, en Chaudière-Appalaches. Je vous dirais que c'est un portrait qui se retrouve dans la presque majorité des bassins versants, avec quelques exceptions. Ce qui est positif dans tout ça, c'est qu'avec le PRMHH, dans le plan d'action dont je vous parlais tout à l'heure, il sera possible d'identifier des actions qui pourront être de l'ordre de l'acquisition des connaissances, par exemple. C'est-à-dire que si vous posez des questions à savoir, bon, est-ce que c'est la pollution diffuse, est-ce que c'est la pollution de nature davantage agricole sur laquelle on pourrait agir, il y aurait moyen d'intégrer des activités d'acquisition de connaissances dans votre plan d'action pour permettre de mieux comprendre la source de pollution, de contamination et de mieux agir. Donc ça va être un élément qui va être très intéressant pour vous de suivre dans le cadre du PRMHH. Et quand on va faire les activités, plutôt les ateliers pour déterminer les actions dans le plan d'action, mais c'est des choses dont on pourra parler puis discuter ensemble, mais qui pourraient vous apporter beaucoup de bénéfices. Donc, c'est la... Mais là, je n'ai même pas regardé l'heure. Là. J'espère que je ne dépasse pas. OK, c'est correct. C'est correct. Donc, c'était pour la portion de la présentation du portrait, mettons l'échéancier, les prochaines étapes. Donc, dans le diagnostic, je vous parlais tout à l'heure de l'identification des milieux humides et hydriques d'intérêt. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire au mois de mai, donc ça s'en vient. Donc, on a regardé les forces et faiblesses de chacun des bassins versants. Maintenant, on va regarder quels sont les milieux humides et hydriques qui apportent le plus de bénéfices à votre communauté, à la MRC, dont par exemple la réduction des risques liés aux inondations, l'approvisionnement en eau potable, donc tous les services écologiques que nous rendent les milieux humides et hydriques. On va regarder lesquels qui nous offrent, qui remplissent le plus de ces fonctions. Par la suite, bon, la visite de milieux humides et hydriques pour les élus, ça s'en vient en mai-juin également. Et par la suite, de juin à septembre, on va faire des ateliers pour établir les engagements de conservation. À ce moment-là, on va travailler vraiment à l'échelle des MRC et on va regarder, voici quels sont les milieux humides et hydriques d'intérêt. Maintenant, quelles sont nos priorités de développement dans la MRC de Bellechasse et comment est-ce qu'on peut concilier les usages? Donc, il va y avoir un beau travail là, de réflexion à faire ensemble cet été pour se poser et réfléchir à cette question-là. Et ça, comme je le disais, c'est vraiment un exercice qui va se faire à l'échelle de la MRC. Et peut-être qu'on pourrait déjà commencer à réfléchir ensemble, je ne sais pas si on a le temps ce soir, mais il y aura la possibilité pour vous de décider à quel moment et comment vous voulez impliquer les différents membres des comités sectoriels dont je parlais précédemment. Donc, le comité agricole, le comité de la foresterie, le comité urbanisme et le comité eau et environnement. À quel moment dans votre réflexion, au courant de l'été, vous voulez les impliquer pour avoir leurs impressions, comprendre leurs priorités, comprendre leur réalité terrain également. Donc, ça sera également possible à faire, parce que c'est vous qui allez adapter vos ateliers. Voilà. Donc, j'arrête le partage. On est aux questions. C'était très rapide comme survol.
Alors, des questions, on pourra prendre peut-être un maximum de 5 minutes parce qu'on est en retard sur notre séance. Alors, est-ce que vous avez des questions de compréhension? L'objectif, c'était de vous informer où étaient rendus les travaux de tout ce dossier-là. Alors, des questions? Non? Alors, ça veut dire que c'était clair. On vous remercie pour votre présentation. On comprend que vous allez revenir à un moment donné pour des suivis de ce dossier-là, mais qui va être un peu plus particulier à Bellechasse.
Exactement. Donc, cette année sera très riche en activités, comme je le disais. On aura l'occasion de déterminer ensemble comment vous voulez procéder pour créer vos propres ateliers, vos exercices de consultation auprès de votre population pour passer aux étapes suivantes et ultimement arriver au plan d'action. Pendant ce temps-là, nous, on continue le travail de diagnostic pour bien identifier les milieux humides et hydriques d'intérêt qui vont vous aider à réfléchir ensemble et à prendre des décisions. Alors voilà, en tout cas, on est disponible si vous avez des questions. Puis si jamais on vous voit à la visite des milieux humides et hydriques, on serait très, très heureux d'échanger avec vous. Puis merci pour votre temps. Je comprends qu'il est tard, là, donc c'est vraiment apprécié que vous nous ayez accueillis. Merci beaucoup.
Merci, José. Merci à toute l'équipe.
Au plaisir.
Merci. Alors, Annick, on passerait à la deuxième présentation.
Oui, deuxième présentation, Mme Marie-Ève Lacasse qui va venir nous présenter le plan d'action 2021 en lien avec le plan de développement de la zone agricole, le PDZA.
15 minutes, Marie-Ève.
Ah oui, parfait. Bien, bonsoir à tous. Oui, je vais faire ça en 15 minutes, il n'y a pas de problème. Dans le fond, je pense que vous avez toutes eu la nouvelle version du plan d'action 2021 pour le PDZA, pardon. Oui, parfait. Dans le fond, je vais vous faire un court résumé de ce qu'on prévoit faire en 2021. Dans le fond, cette année, encore très ambitieux, On travaille sur 9 projets bien ciblés. Je les ai mis dans le bon ordre cette fois-ci pour cette année. Ça va être possible à suivre pour tout le monde. Puis, vous avez vraiment tous les livrables et les actions qui sont prévues là, pour les 9 projets. À la toute fin du document, vous allez voir, il y a 2 projets bien spécifiques qui combinent plusieurs projets du PDZA. Dans le fond, on travaille avec la Boyer sur un projet. On est à titre de représentant, là, puis on va faire des interventions de façon sporadique là, avec le comité là, de travail, avec les chercheurs et les producteurs agricoles. Puis ce projet-là, bien, il combine quand même 3 projets spécifiques du PDZA, le REA, la réglementation partagée. Puis là, j'ai un blanc de mémoire, c'est le projet numéro 5. Je vais aller chercher. C'est Belle Chasse, Terre d'agro-environnement. Puis aussi, le dernier projet qui s'est ajouté, pour lequel, bien là, il ne s'est pas identifié, mais on a eu du financement parce que lors de la réalisation là, du document de plan d'action, on n'avait pas encore eu la confirmation du MAPAC pour l'obtention. Fait que dans le fond, je peux vous annoncer aujourd'hui la bonne nouvelle qu'on a reçu du financement de 36 500 $ pour la réalisation de la deuxième phase du projet Sini-Belle-Chasse qui, lui, couvre les projets désert alimentaire, développement agricole, Belle-Chasse, puis la cohabitation harmonieuse. Fait que dans le fond, c'est 9 projets, mais qui se déclinent là, en d'autres projets, étant donné qu'on a 2 projets combinés à la toute fin. Ce qui va nous permettre de réaliser 13 actions spécifiques en lien avec tous ces beaux projets-là du PDZA. Puis, ben, dans le fond, ça fait vraiment le résumé. Je n'ai pas mis de code de couleur parce qu'on repart à zéro, si je peux m'exprimer ainsi là, pour cette année. Mais lorsque j'aurai la chance de venir vous présenter à la mi-parcours, peut-être à l'été, juin ou au pire en septembre, là, il va y avoir un petit peu plus de couleur là, qui va apparaître dans les projets là, qui sont en cours. Puis aussi, ben, je voulais aussi vous annoncer une bonne nouvelle encore ce soir. Comme vous le savez, on a le projet Belle-Forêt. Belle-Forêt, on a reçu une partie pour faire la valorisation du secteur forestier avec le PADF. Puis on a organisé une formation « J'améliore mon boisé » en collaboration avec les différents acteurs du milieu forestier. Puis ben, c'est complet, fait que dans le fond, l'offre de formation a su répondre aux besoins. Puis cette année, ben, avec l'Agence de mise en valeur des Appalaches, ben, on a une visite conseil d'une valeur de 300 $ qui est offerte. Fait que dans le fond, les propriétaires de l'eau boisée cette année, en suivant la formation « J'améliore mon boisé », qui est l'initiation au secteur forestier, se voient offrir une visite terrain d'un conseiller un technicien, d'un ingénieur forestier en lien avec l'agence qu'ils auront choisi, puis tout ça gratuitement. Puis bien, les gens, les propriétaires devaient s'inscrire, puis le coût de la formation était de 25 $. Fait que ce samedi, le 20 février, ainsi que samedi prochain, 27 février, bien, on aura 15 étudiants par jour qui vont assister à la formation J'améliore mon boisé au Centre de formation agricole à Saint-Anselme. Grosso modo, ça fait le tour quand même, somme toute, rapide. Mais si jamais vous avez des questions, besoin d'un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas là, à me contacter, soit par courriel ou à m'appeler au bureau. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, ben, on a un site Internet, pdzabellechasse.com. Fait que si jamais ça vous intéresse, prochainement, on va rajouter une section sur les projets. Fait que les 14 projets vont être détaillés avec tout ce qui est en œuvre en ce moment là, par les projets. Pardon. Ben, grosso modo, je pense que ça ferait pas mal le tour de ce que j'avais envie de vous présenter ce soir. Je ne sais pas, Louis, si tu voulais rajouter quelques informations spécifiques.
Je n'ai pas d'informations particulières à partager, mais vous comprendrez que, étant donné la pandémie en 2020, on a essayé de faire ce qu'on a pu là, au niveau des actions en 2020. Mais en 2021, là, on est reparti là, sur une nouvelle lancée. Là, puis les résultats, là, ils vont arriver assez rapidement là, en 2021. Là, Marie-Ève là, a bénéficié beaucoup de temps en fond, pour travailler sur l'ensemble des projets. Il y a des projets qui sont de plus longue haleine, alors qu'il y en a d'autres qui sont à plus court terme. mais je pense que ça fait bien le résumé, là, le plan d'action là, qui figure dans votre envoi ce soir.
Ouais, puis, oui, excusez.
Vas-y, Marie-Ève.
Ben, je voulais juste rajouter, là, parce que je le vois sous les yeux, là, puis je ne savais pas si on vous l'avait mentionné en décembre, mais le projet Déchets en or sur la récupération des plastiques agricoles en collaboration avec mes collègues du GMR, ben, on a reçu un financement là, de Climat Municipalité d'au-dessus de 20 000 $ pour l'optimisation de la cueillette, puis travailler avec un consultant là, pour s'améliorer, puis de trouver des nouvelles façons de récupérer le plastique agricole. Avec l'Université Laval, entre autres. Mais ça, on aura peut-être la chance de venir vous représenter un petit peu plus en détail là, à la présentation mi-parcours là, du plan d'action.
Alors, parfait. Merci, Marie-Ève. Merci, Louis. Je pense qu'il faut aussi souligner l'excellent travail du comité PDZA, où on partage l'expertise municipale avec le milieu agricole. Je pense que c'est toujours des réunions intéressantes, puis il y a vraiment une discussion là, qui porte fruit par des projets qui sont vraiment collés à notre réalité. Alors, merci. On passe maintenant au point 7 de l'ordre du jour, aménagement et urbanisme. Avis de conformité, ça doit être Annick qui prend le flambeau.
Oui, donc avis de conformité, on a deux conformités pour ce soir. Donc la première, c'est le règlement numéro 462 qui modifie le règlement de zonage numéro 60 de la municipalité de Saint-Anselme.
Luc.
Jean-Yves et Luc.
Parfait. La deuxième, donc, c'est le projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MO pour le 38 route Kennedy dans la municipalité de Saint-Henri.
David et Yves Turgeon.
Parfait. Donc, ça complète les conformités. Donc, je céderai la parole à M. Louis Garand pour la suite des points concernant l'aménagement.
Donc, 7.2, avis CPTAQ, Louis.
Oui, vous êtes tous au courant, là, en 2020, il y a l'entreprise d'Énergir, dans le fond, qui a voulu faire passer un système de gaz naturel à l'intérieur de la MRC pour se rendre jusque sur le territoire de Montmagny. Je vous dirais que l'entreprise nous a communiqué un peu en retard par rapport à une décision qui devait, un avis qu'ils devaient obtenir de la part de la CPTAQ. Normalement, lorsqu'ils passent le réseau gazier, ils doivent obtenir une autorisation de la CPTAQ et demander aussi un avis de la part de la MRC par rapport au schéma d'aménagement pour les travaux d'excavation pour effectuer le transport de cette ligne de gaz naturel. Ce qu'ils ont réalisé durant leurs travaux, c'est qu'au niveau de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse, ils devaient passer sous la rivière Boyer pour pouvoir alimenter, entre autres, une partie de la municipalité du centre urbain de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse. Et puis, lorsqu'ils ont fait leurs travaux de forage, ils ont réalisé qu'ils avaient quelques complications pour pouvoir passer en dessous de la rivière. Donc, ils ont dévié quelque peu, c'est pas une grosse déviation, là, mais ils ont dévié quelque peu leur tracé pour pouvoir faire passer la ligne de gazoduc et puis pour rattraper la situation et se conformer, ils ont déposé une demande, dans le fond, à la CPTAQ pour modifier leur tracé là, pour se rendre jusque dans la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse. Donc, en conformité avec tout ça, ils nous ont demandé un avis par rapport à notre schéma d'aménagement à la MRC pour voir si c'était conforme là, à tous leurs travaux. Donc, l'analyse a été effectuée par rapport au nouveau tracé et puis il n'y a pas de contravention, dans le fond, au schéma d'aménagement actuel. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'adopter une résolution de conformité à la modification du tracé pour le gaz naturel d'Énergir sur le territoire de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse.
Qui propose Germain et Guylaine Aubin? On est rendu au 7.73, avis de motion, règlement de contrôle intérimaire 283-21.
Je suis bien heureux ce soir. On arrive à la dernière étape ou l'avant-dernière étape parce qu'évidemment, il y aura peut-être une modification des règlements municipaux par rapport à cette décision-là. Comme vous le savez, en octobre dernier, la CPTAQ a rendu sa décision par rapport à la demande à portée collective pour les nouveaux îlots déstructurés sur notre territoire. Les nouveaux secteurs où est-ce que des résidences peuvent s'implanter sur le territoire de Bellechasse en zone agricole. Donc, ce soir, ce qu'on vous présente, c'est un règlement de contrôle intérimaire pour lequel, dans le fond, on met en œuvre cette décision de la CPTAQ-là. Vous comprendrez que lorsque on passe un règlement de contrôle intérimaire ou une modification du schéma d'aménagement, nous devons obligatoirement demander l'avis du ministère des Affaires municipales. Donc, nous proposons de passer un règlement de contrôle intérimaire ce soir et de passer, entre autres, par un avis de motion en première étape.
Première étape, l'avis de motion. Qui donne l'avis de motion du règlement?
Éric.
Éric? C'est beau. La deuxième, c'est l'adoption du règlement comme tel.
Oui, je vous demande, puisque vous avez obtenu les documents d'avance, je vous demande une dispense de lecture, puisque normalement, on doit effectuer la lecture du règlement. Je vous assure, le règlement qui est déposé concorde strictement avec la décision de la CPTAQ.
Qui propose l'adoption du règlement?
Martin J.
Christian et David, c'est beau.
Évidemment, le règlement adopté abroge aussi les deux précédents règlements de contrôle intérimaire qui ont été effectués en 2008 et 2013, puisque la nouvelle décision constitue une décision globale de la CPTAQ qui comprend les deux décisions précédentes.
Antérieure. Et on serait rendu à la demande d'avis au MAMH sur notre règlement qu'on vient d'adopter. Est-ce que ça prend une résolution, Louis?
Oui, c'est bien.
Donc, une résolution. Qui propose la résolution pour l'approbation du MAMH?
Martin G.
Martin G. et Jean-Yves Turmel.
Pour votre information, et dans le fond, peut-être à la question de M. Christian Lacasse qui l'avait posée la dernière fois, à la dernière séance. Le MAMH a 60 jours pour donner leur avis, après quoi le règlement entre en vigueur.
Et enfin, le point 7.6, il faut faire un petit document qui explique la nature des modifications du règlement 283-21. Est-ce que ça te prend aussi une résolution pour adopter ce document-là?
Oui.
Oui.
On va l'adopter. On doit l'adopter en même temps que le règlement ou après. Donc, je vous évite cette étape-là pour la prochaine fois.
Donc, qui propose? Christian et Sarto. Alors, on serait maintenant. Merci, Louis.
Ça fait plaisir.
On est efficace. Alors, on est rendu à matière résiduelle 8.1, rapport d'échéance dépôt PGMR. David?
Oui, merci Clément. Bonsoir tout le monde. Donc, vous l'avez vu dans les documents qu'on vous a fait parvenir. La FQM nous a fait demander, là, dans le fond, qui a envoyé une demande d'appui essentiellement là, à toutes les municipalités du Québec ou les MRC. Pour un report d'échéance là, pour les PGMR compte tenu de tout ce qui se passe. Puis vous l'avez vu un peu là aussi, là, même en ce qui nous concerne avec la MRC de Bellechasse, avec la matière organique, il y a des grosses décisions à prendre. Comme vous le savez, par contre, nous, au niveau de la MRC de Bellechasse, avec la démarche qu'on a commencée avec la révision du PGMR déjà, je vous confirme qu'à date, en tout cas, l'échéance, c'est qu'on respecterait, nous, notre délai de 5 ans, là, qui est prévu par la LQE. Mais nonobstant, la FQM propose là, de demander au ministère de repousser le délai à 7 ans. Donc, le PGMR pourrait être en vigueur pour 2 ans additionnels, ce qui donnerait de la chance à plusieurs municipalités du Québec là, d'intégrer les nouvelles modifications. Vous avez le projet de résolution là, qui serait proposé par la FQM.
Alors, vous avez tous vu la résolution.
Exact.
Est-ce que vous êtes d'accord à appuyer la demande que nous formule la FQM? Qui est prêt à proposer?
Yvon propose.
Sébastien. Yvon et Sébastien. On est rendu redistribution des redevances à l'élimination. David?
Oui, écoutez, ben, vous avez vu encore une fois les documents. Ça, c'est juste... C'est essentiellement un point d'information, mais il y a deux petites choses que je veux vous faire valoir sur ça. C'est que premièrement, bien, vous voyez donc dans les documents le système. Donc, vous comprenez qu'à chaque tonne de matière résiduelle qui rentre dans les sites d'enfouissement au Québec, le ministère perçoit ce qu'on appelle une redevance. Il y avait deux types de redevances. Ces redevances-là vont être fusionnées éventuellement. Bref, le gouvernement ramasse... proche de 130 millions de dollars, là, un petit peu plus de 130 millions de dollars comme ça pour financer les différents programmes. Et ils vont en redistribuer jusqu'à 80 millions aux municipalités, ce qui représente une forme de subvention, si on veut, là, pour les MRC qui doivent justement mettre en œuvre là, les PGMR. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que pour l'année 2020, donc la dernière redistribution, le montant du chèque dans notre cas sera de 402 000 $, si je ne me trompe pas, 402 506 $. C'est un montant qui est un petit peu supérieur à notre estimé, puisque dans le fond, ce qu'on constate quand on regarde l'annexe là, qui a été mise avec les documents, c'est que la performance, cette redistribution-là, elle est versée en fonction de la performance environnementale. Et cette performance-là est mesurée par rapport à la quantité de matière résiduelle éliminée par habitant par année. Et on se compare avec la moyenne du Québec. Et vous voyez que dans le cas de Bellechasse, pour l'année 2020, on est à 7,17 $ par habitant. Ce qui veut dire qu'on performe mieux que la moyenne du Québec et les municipalités dans l'annexe, donc le tableau par municipalité, chaque municipalité a son genre de score, si vous voulez, donc son montant qui est établi par habitant en fonction de la performance, donc la quantité de matière résiduelle éliminée au niveau résidentiel et au niveau territorial. Le niveau territorial, ça veut dire que ça inclut les commerces et les institutions et les industries. Donc, et ils vont être comparés à une moyenne du groupe dans le Québec là, qui est comparable à la municipalité en question. Donc, il y a certaines municipalités qui ont encore du travail à faire. Donc, toutes les municipalités qui sont en bas de 7 et 16, si vous voulez, dans le tableau, ben, auraient avantage à mettre encore des mesures, que ce soit de bonifier le programme de compostage domestique, que ce soit de bonifier... D'autres mesures là, qu'on peut développer avec les municipalités locales. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est qu'on est en train là, de travailler avec l'équipe de la symbiose industrielle pour les industries, les commerces et les institutions à améliorer, si on veut, la performance du secteur industriel ou du secteur commercial, si je devrais dire. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous aider au fil des années. Et malgré tout, les mesures qu'on met en place depuis maintenant quelques années, bien, on voit que ça contribue pour l'instant à stabiliser, si on veut, cette subvention-là qu'on obtient. Et juste la dernière chose qui est à noter, c'est que vous voyez que dans la redistribution de la redevance, il y a une partie qui est attribuable à la gestion de la matière organique pour l'ensemble du Québec qui équivaut à 1,42 $. Pour la MRC de Bellechasse, présentement, est à 0 $. Puisque, dans le fond, notre stratégie là, reconnue au niveau du ministère n'est pas encore implantée. Mais dans les prochaines minutes, là, vous allez voir qu'on va faire un pas dans cette direction-là et éventuellement pouvoir aller chercher là, cette portion de la subvention-là aussi dans les prochaines années. C'était plus un point d'information.
D'information. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce tableau-là ou ça vous semblait suffisamment clair?
Ça, cet argent-là reste à la MRC, là.
Cet argent-là reste à la MRC parce que ça finance le budget, là, le budget au niveau du PGMR et des mesures là, qu'on a en place là, au niveau
de la MRC. Tu ne fais pas une distribution de cet argent-là aux municipalités?
Non. La quête de chemin, les municipalités, les aides de chemin, l'argent ne vient pas chez nous, je pense.
Oui, maintenant, Clément, on avait corrigé la situation dans les années 2016. Donc, oui, à cause qu'ils sont, ils ont délégué la portion quand même d'enfouissement, on avait été en mesure de ramasser l'enveloppe. C'est pour les 33 municipalités qu'on ramasse, parce que dans le fond, ils contribuent. C'est sûr qu'on ne redistribue pas dans les municipalités, mais en même temps, il faut comprendre que ça vient financer le budget. Donc, la quatre part pour le traitement des déchets est moindre là, de 402 000. Là.
On applique le montant à la diminution des coûts.
C'est et voilà.
On serait rendu.
Madame Aubin.
Oui, Madame Aubin.
Madame Aubin.
J'aurais une petite question juste pour préciser. Quand tu disais quand on est en bas du 7 et 16, on devrait améliorer la performance. C'est bien ce que j'ai compris.
En fait, toutes les municipalités au Québec peuvent améliorer la performance, mais on peut. En fait, le 7 et 16 vous sert effectivement d'un premier. Je vais l'afficher à l'écran, là. Ça va être peut-être juste deux secondes.
Interroge ton 4 et 59.
Oui!
Ben,
je ne peux pas l'afficher à l'écran, que... là.
Oui, bon, vous avez le... Attendez un petit peu, là, je vais retrouver l'annexe. Là, c'est sûr que c'est des petits chiffres, on va essayer de grossir. On va prendre l'exemple de la municipalité de Sainte-Claire, là, c'est un bon exemple.
Non, ben non, là.
Non, mais vous allez voir, c'est que donc... parce que c'est la première ligne, en plus, c'est la première ligne en haut, donc ça va être facile à suivre. Donc, on a la population... la municipalité est classée dans un groupe, dans ce cas-ci, le groupe 2. Et donc, la municipalité élimine en moyenne 252 kilos par habitant pour l'année 2019 par rapport à une moyenne, moyenne du groupe dans lequel elle est comparée, dans le groupe 2. Dans ce cas-ci, il y a différents paramètres pour 243. Donc, on voit qu'elle est très proche de la moyenne, un petit peu en haut. Donc, elle va avoir tendance à performer un petit peu moins bien, mais pas beaucoup. Puis là, on voit qu'au niveau de la performance territoriale, quand on prend toute l'activité commerciale en compte, là, on voit que ça monte à 584, alors qu'une municipalité de ce groupe-là serait autour de 410. Donc, on voit que dans le cas de la municipalité de Sainte-Claire, là où ça fait mal, si je peux dire, c'est au niveau du secteur commercial. OK? Ça veut dire que là, oui, effectivement, là, on a le 7 et 16 de la moyenne du Québec, mais il faut prendre ça plus... au niveau de la performance du groupe. Ce qu'on a fait, là, vous ne voyez pas ces chiffres-là, mais ce qu'on voit, c'est que la performance de Sainte-Claire, malgré qu'elle est encore en haut de la moyenne du groupe, par rapport aux dernières années, donc les années 2018 et 2017, elle s'est améliorée, elle s'est rapprochée de la moyenne à cause, probablement, on pense qu'on peut voir le programme de compostage domestique collectif et autres, puisqu'on voit que quand on parle juste du résidentiel, on est très proche. Maintenant, avec le projet des symbioses industrielles, on va travailler sur le volet industriel. On espère que ça va donner des chances, puis que ça va permettre effectivement, non seulement à Sainte-Claire, mais à d'autres municipalités du territoire qui vont participer, de se rapprocher des moyennes du groupe correspondant, puis éventuellement de dépasser le 7 et 16. Puis là, juste pour faire le bénéfice de l'exemple, je vais prendre vous voyez donc le 4 et 59 de Sainte-Claire, la troisième ligne, on voit qu'il y a une municipalité à 7 et 49. Ça veut dire que cette municipalité-là, je ne sais pas c'est laquelle, mais ça veut dire qu'elle performe à de l'air pas pire. Donc, cette municipalité-là, elle, dans son groupe comparable, elle performe mieux que la moyenne, donc elle va chercher un peu plus. Là, dans ce cas-ci, on voit que c'est le cas de Saint-Henri. Fait que, est-ce que dans les entreprises à Saint-Henri, il y a des entreprises qui ont plus de ISO, qui ont plus de procédés, c'est toutes des choses qu'on va fouiller avec le projet des symbioses. Mais même à 7,49, la municipalité n'est pas au maximum et pourrait certainement améliorer sa performance. Ce qu'on calcule d'une année à l'autre, c'est qu'il y a à peu près 150 000 $ d'argent qui reste sur la table. Évidemment, pour aller chercher cet argent-là, il faudrait investir aussi beaucoup. Donc, c'est un équilibre à respecter, mais ça reste que il y a des performances et il faut en tenir compte quand on veut développer des programmes de compostage, comme je le dis souvent, collectif, domestique, c'est, c'est pertinent et ça va demeurer pertinent même lorsqu'on va avoir une stratégie un petit peu plus généralisée parce que ces projets-là servent de sensibilisation pour les citoyens et permettent après ça aux gens, quand ils vont dans les entreprises, quand ils vont à la maison, de poser les bons gestes en gestion des matières résiduelles. Là.
Parfait. Alors, on passerait à l'autre point. Oui, y avait-tu d'autres questions? Non? On passerait à l'autre point. Environnex, c'est suite au questionnement qu'on avait fait. Tout le monde a lu la réponse qui nous avait été formulée. Est-ce que ça vous satisfait? Donc, on nous donne des motifs qui nous semblent valables. Moi, ce que j'en conclue, par contre, il faudra continuer à suivre ce dossier-là pour s'assurer.
Ce dossier-là absolument. Je ne sais pas, il propose dans la lettre de peut-être avoir une rencontre au niveau du conseil, peut-être une petite séance en Zoom. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour le conseil ou si on fait un suivi comme administratif, comme on continue de le faire, puis... On vous tient au courant là, des développements où on prend les questions.
Commençons par un suivi administratif. Puis si on voit qu'en suivi aussi avec la municipalité de Saint-Malachie, si dans le fond la situation ne s'améliore pas puis que la montagne arrière continue à augmenter, ben, il faudra peut-être agir là, parce qu'on nous donne des bonnes intentions, mais... on n'a pas une grande diminution, en tout cas jusqu'à date, là. Mais on a des motifs qui justifient ça, là. Donc, moi, à mon sens, ce serait de faire un bon suivi pour ne pas se ramasser avec une problématique là, qui est difficile à régler.
On serait... On va garder le suivi comme ça.
8.4, climat municipalité, confirmation de quoi de financement.
Oui, bien écoutez, là, je vous l'apprendrai pas parce que Marie-Ève a un petit peu dévoilé le punch là, au niveau de la présentation du PDZA. Donc, mais c'est la confirmation officielle comme quoi que le projet qui avait été déposé là, en vertu du programme Climat Municipalité Phase 2 au ministère de l'Environnement a été accepté tel que proposé. Pour le bénéfice du conseil, des membres du conseil, vous avez donc la lettre de confirmation et je vous ai remis une copie parce que c'est quand même un projet qui a été adopté là, au mois de mai ou juin, là, ou, lors de la séance, excusez-moi, du conseil de 17 juin 2020. Donc, ça fait un moment déjà. Avec l'ère de la COVID, on l'a mentionné quelques fois, les mois passent. Là, donc, je me suis permis de vous remettre le résumé du projet pour que vous ayez en tête là, de quel projet il s'agit. Donc, vous pouvez considérer que ce projet-là... a démarré là, dès qu'on a eu la confirmation. Là, les ententes ont été signées. Et puis, c'est un projet qui va se dérouler là, au cours des prochains mois, puis pour lequel, effectivement, avec le PDZA, mais aussi avec la gestion des matières résiduelles, vous allez avoir un suivi. Là.
Parfait.
Et sachez qu'il y a un petit communiqué aussi qui va être préparé à l'intention des médias pour signifier ça, parce que, veux pas aussi, on a quand même besoin de participation des agriculteurs dans ce projet-là. Donc, il y a des communications qui sont prévues.
Parfait, David. On serait rendu au point 8.5, traitement de la matière organique. On a une résolution à être déposée.
Effectivement, en lien avec le traitement de la matière organique, pour le bénéfice des gens qui peut-être vont écouter le compte-rendu ou la séance publique finalement là, qui va être diffusée, ce que je propose, c'est de sommairement lire le projet de résolution afin que les citoyens puissent bien comprendre l'enjeu de cette résolution. Et puis, après Allons-y. Ça, on pourra proposer l'adoption. Donc, on parle du traitement de la matière organique. C'est le choix d'une orientation. Attendu que le rapport GBI qui analyse les options de traitement de la matière organique pour la MRC de Bellechasse a été déposé en séance de travail au Conseil de la MRC de Bellechasse le 21 octobre 2020, attendu que le rapport comporte un volet d'analyse multicritère qui prend en compte tous les aspects du développement durable, à savoir les aspects environnementaux, sociaux, économiques, mais également les aspects techniques inhérents aux options de traitement de la matière organique. Attendu que le rapport comporte également un volet d'analyse financière qui mesure le risque financier ainsi que le rendement financier estimatif. Attendu que l'analyse multicritère démontre que le choix de l'option la plus avantageuse pour la MRC de Bellechasse serait soit l'implantation d'un bac brun et d'une troisième voie de collecte dans un premier temps ou Encore, l'implantation d'un système de tri robotisé de sacs de couleurs assisté par intelligence artificielle de l'autre, ce qu'on nomme dans le rapport GBI l'option 4A. Attendu que l'analyse financière révèle que le choix de l'option du bac brun et de la troisième voie de collecte représente la solution la moins risquée, mais qu'elle engendre une hausse de coûts d'environ 6 % par rapport au budget annuel estimé pour le statu quo, c'est-à-dire la situation qui prévaut actuellement. Donc, on parle de dépenses additionnelles nettes de 435 000 $ par an environ par rapport au statu quo. Attendu que l'analyse financière révèle que le choix de l'option d'un système de tri robotisé de sacs de couleurs assisté par intelligence artificielle représente une gestion du risque un peu plus élevée, mais qu'elle engendrerait une baisse des coûts d'environ 5 % par rapport au budget annuel estimé pour le statu quo, soit environ 358 000 $ par an de réduction des dépenses nettes. Attendu que globalement, l'analyse comparative des deux scénarios, des deux options, révèle un écart financier qui frôle donc les 800 000 $ par année, soit environ 11 % du budget, ce qui inclut des réductions d'investissement nettes pour la MRC d'un ordre de grandeur de 800 000 $ Attendu que les enjeux en gestion des matières résiduelles provoque la nécessité de choisir une technologie innovante qui offrirait des possibilités d'optimisation importantes à plusieurs niveaux de la gestion des matières résiduelles, attendu que le CGMR recommande au conseil de la MRC d'implanter un système de tri robotisé de sacs de couleurs assisté par intelligence artificielle comme actif de tri à la source de la matière organique et qu'il soit installé à même les infrastructures du site d'enfouissement de la MRC de Bellechasse. Il serait proposé, en conséquence, que, dans un premier temps, le conseil choisisse d'implanter un système de tri, comme on l'a mentionné, soit l'option 4A du rapport GBI, donc un système de tri robotisé avec des sacs de couleurs, que le conseil de la MRC de Bellechasse mandate la direction du service GMR à valider l'ensemble des données nécessaires à la réalisation de cette option, et de présenter, là, dans le fond, là, ces données au conseil là, prochainement. Donc, il serait résolu dans un troisième temps que le conseil mandate aussi à la direction du service GMR de présenter un échéancier complet pour l'implantation de cette option de traitement de matière organique et que, dans un quatrième temps, qu'une copie de cette résolution soit envoyée, si j'ai bien compris, donc à la Régie intermunicipale de gestion des déchets des aides-chemins afin d'obtenir une résolution d'adhésion de ces municipalités-là à l'orientation retenue pour le traitement de la matière organique, puisqu'elles sont des partenaires, finalement, là, du traitement des déchets.
Question? Sinon, proposition pour l'adoption. David, qui seconde? Yvon. Donc, est-ce qu'il y a des contre à l'adoption? Est-ce que des personnes sont contre l'adoption de cette résolution-là? Elle est donc adoptée unanimement. On serait rendu au point 8.6. Compaction des matières résiduelles et presse. On te laisse toujours, David.
Parfait, merci.
Il y a une résolution.
Donc, encore une fois, au niveau du projet de résolution qui est présenté ce soir, on parle de la compaction des matières résiduelles. On a un mandat d'analyse d'acquisition d'une presse à déchets. Donc, attendu que le rapport GBI qui analyse les options de traitement de la matière organique a été déposé dans une séance de travail du Conseil de la MRC le 21 octobre 2020. Attendu que ce rapport a également analysé l'impact du remplacement d'un compacteur à déchets sur roue, ce qu'on appelle un compacteur traditionnel, par une presse à déchets afin de déterminer s'il pouvait être avantageux de changer la méthode de compaction des matières résiduelles. Attendu que le résultat de cette analyse a démontré que malgré un certain risque technologique, le choix d'une presse à déchets comme actif principal de compaction pouvait représenter une opportunité non négligeable d'optimisation des actifs du service GMR à long terme, attendu que si ce changement technologique était planté de façon efficace, Cela permettrait donc de dégager une plus-value économique et environnementale importante pour les municipalités partenaires du service GMR, attendu que la presse à déchets pour les matières résiduelles est utilisée avec succès depuis quelques années pour les opérations d'enfouissement à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook, attendu que le CGMR recommande au Conseil de lui confier un mandat d'analyse pour évaluer l'implantation d'une presse à déchets comme actif de compaction principale des matières résiduelles, attendu que le CGMR recommande également dans ce mandat qu'il porte spécifiquement sur le fait de combiner l'actif de compaction des déchets avec l'actif de traitement de la matière organique. En conséquence, il serait résolu que le conseil de la MRC choisisse d'implanter une presse à déchets comme actif de compaction principale des matières résiduelles au site d'enfouissement et que dans un deuxième temps, que le conseil donne un mandat au CGMR pour évaluer les spécifications relatives à la presse à déchets à implanter, que finalement, dans un troisième temps, que le mandat du CGMR porte spécifiquement sur le fait de combiner les deux actifs, donc l'actif de compaction, soit la presse, avec l'actif de traitement ou de tri à la source, si vous voulez, des matières organiques. Donc, que ça soit analysé dans cette perspective-là.
Question sur la proposition. Germain propose.
Manon second.
Manon second. C'est beau. Alors, merci, David. On passerait maintenant au point d'administration. Ce n'est pas parce que je veux aller vite, mais c'est tout simplement pour être efficace ce soir. Donc, Annick, correspondance.
Donc, oui, correspondance. Donc, c'est la première correspondance qui nous provient du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. David en a parlé longuement tout à l'heure. Là. Donc, c'est dans le cadre du programme de redistribution aux municipalités là, au niveau des redevances. Fait que j'irai pas plus loin là-dessus. Là. David en a parlé amplement tout à l'heure. Ensuite, à la correspondance numéro 2 qui nous provient du ministère des Transports, donc c'est la reconnaissance du réseau cyclable régional aux fins de l'application du volet 3 au niveau du programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif. Donc, c'est vraiment en lien avec notre véloroute. Donc, c'est vraiment là, pour nous dire là, qu'on peut engager, qu'il y a certaines dépenses d'exploitation qui sont liées à nos infrastructures qu'on va pouvoir soumettre pour financement. Donc, voici la première correspondance reçue à cet effet-là. Ensuite, correspondance numéro 3, qui est un communiqué de presse là, qui vient annoncer là, un projet de service d'accompagnement pour les PME innovantes et technologiques. Donc, je n'irai pas plus loin à cet effet-là. Là. Vous avez la documentation entre les mains. Ensuite, la correspondance numéro 4 qui nous provient de Agir collectivement dans Bellechasse là, en lien avec les sacs réconfortants. Il y a eu une conférence de presse là, qui a été organisée à cet effet-là pour décrire le projet là, qui était d'offrir des sacs réconfortants aux écoles CPE, garderies et organismes du territoire qui seront remis là, vers la fin du mois de février. Ensuite, correspondance numéro 5 qui nous provient de l'organisme L'Arche de printemps en lien avec le don qui a été effectué à l'organisme, le don fait par la MRC. Correspondance numéro 6, donc c'est une correspondance que j'ai mis là, qui nous provient de la MRC Antoine Lebel. Vous le savez, là, on a eu quelques difficultés là, au niveau des ventes pour taxes en 2020 là, en lien avec la crise sanitaire. Donc, même chose du côté de la MRC de Bellechasse, on n'a pas pu tenir la vente pour taxe. Donc, ce que je vous suggérerais, c'est d'adopter une résolution là, dans le même sens que la MRC d'Antoine Labelle. On a fait nos représentations auprès du ministère des Affaires municipales. Là, ça ne semble pas beaucoup bouger à cet effet-là. Donc, vous savez, là, on est également là, dans le processus de la vente pour taxe pour l'année 2021, malgré le fait qu'en 2020, là, on n'a pas pu la tenir. Donc, on doit recommencer là, l'ensemble des processus. Donc, je vous suggérerais là, d'adopter là, une résolution dans le même sens que celle déposée.
Qui est prêt à proposer? Guylaine et Jean-Yves. On continue la correspondance.
Correspondance numéro 7, je ne sais pas si vous avez reçu cette correspondance-là là, dans vos municipalités respectives. Donc, c'est une correspondance qui nous provient là, d'un organisme là, qui est Uni pour la faune, que son objectif est de représenter les intérêts des amateurs de chasse et de pêche là, de plein air auprès du ministère des Forêts, de la faune et des parcs. Donc, je ne vous ferai pas la lecture là, de l'ensemble de la documentation qui nous a été déposée à cet effet-là. Vous voyez qu'il y a une résolution là, qui est associée, là, qui est associée là, à cette correspondance-là. Je ne sais pas si vous en avez pris acte. Je ne sais pas si vous voulez adopter une telle résolution ou si vous avez fait l'adoption d'une telle résolution au niveau de vos municipalités locales.
Commentaire? Moins qu'on ne l'a pas reçu chez nous encore. Je ne sais pas si c'est rentré dans certaines municipalités.
Oui, Monsieur le préfet, on l'a reçu à Beaumont. J'ai même eu un appel là-dessus. À date, il y a 200 municipalités qui ont appuyé la proposition.
On en fait quoi? Est-ce qu'on appuie ou si les municipalités locales reçoivent la même demande, est-ce que ça doit être appuyé par les municipalités locales plutôt que par la MRC?
Nous, on l'a reçu chez nous. Moi, je proposerais que chaque municipalité se positionne peut-être.
Oui, oui. D'accord. D'accord. Ouais.
Vous êtes d'accord? On passe à la prochaine correspondance.
Donc, correspondance numéro 8 qui nous provient du ministère des Transports, toujours en lien là, avec la cycloroute de Bellechasse. Donc, c'est pour nous annoncer là, que, dans le fond, la piste cyclable, comme je vous disais tout à l'heure, qui est reconnue comme route verte. Donc, on a droit à un montant là, de 125 227 là, pour l'entretien de la cycloroute là, sur le territoire de la MRC de Bellechasse. Puis, je tiens à préciser que ça, c'est pour une période qui est fixe dans le temps, donc 2019 à 2022. Après, ce sera des nouvelles demandes qu'on devra déposer pour avoir accès à ces subventions.
Donc, 2019-2022, c'est 3 ans?
Exact. Peut-être que, Dominique, tu peux apporter certains commentaires. Vous avez eu une rencontre à cet effet-là aujourd'hui.
Oui, peut-être juste pour mentionner, là, pour le bénéfice de tous, là, que la reconnaissance est permanente. Donc, on est reconnu comme étant une route, on est reconnu comme étant un réseau d'embranchement régional, une route verte. Puis, dans le fond, c'est que cette reconnaissance-là est permanente. C'est juste qu'en ce moment, dans le programme d'aide aux infrastructures de transport, le VELOS 3, là, ben ça, c'est sur 3 ans là, où on peut adhérer à différents volets. C'est vraiment une bonne nouvelle là, pour notre actif là, de la cycloroute.
Donc, c'est des volets de programmation triennale probablement. Et en 2022, il y aura un autre volet.
Exactement.
Question là-dessus. C'est une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps qu'on se battait pour obtenir du financement. Là. Même si on n'est pas reconnu route verte, on est quand même reconnu comme embranchement. Moi, c'est le financement qui est intéressant.
Oui, puis pour ceux et celles là, qui veulent aller sur le site Internet de la route verte, là, bon, on voit là, on voit qu'on est présent là, avec le tracé de la cycloroute puis les différents attraits, là, soit les commerces ou les différents attraits touristiques là, qui seraient autour de la cycloroute.
Parfait. Autre correspondance, Annick?
Terminé.
Alors, on serait maintenant rendu au point 9.2, technicien ou technicienne en administration embauche. Annick, probablement?
Oui, technicienne en administration. Donc, on a prévu là, pour le poste... Je vais juste fermer, j'ai un petit retour de son. Ouais, que si vous pouvez fermer vos... Bon, parfait, merci. Donc, nous avons passé les entrevues là, pour le poste de technicienne en administration, un poste qui était à combler au niveau de la MRC. Donc, on avait un comité composé de moi-même, de M. Christian Lacasse et de notre nouvelle conseillère en ressources humaines, Mme Noémie Beaupré-Ruellan. Donc, les entrevues ont lieu là, pour le poste la semaine dernière. Donc, nous avons retenu la candidature de Mme Marie-Ève Audet, qui est une résidente de Saint-Héry, donc pour une classe 7, échelon 4. Donc, voilà, nous vous recommandons là, son embauche. Là. Madame Marie-Ève travaillait pour la municipalité de Saint-Raphaël. Donc, je tiens à vous souligner qu'il y a eu un suivi qui a été fait avec la municipalité à cet effet-là là, pour justement assurer une transition là, pour la municipalité, là, pour ne pas les laisser pour compte là, dans cette transaction-là. Alors, voilà.
Proposition?
Sébastien propose.
Sébastien et Pascal. On serait rendu à Réseau Accès Entreprise, Convention d'aide financière. On en a parlé lors du huis clos, mais tu peux nous résumer ça rapidement. Annick?
Oui, dans le fond, le projet, donc, qui est ce projet menée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, là, qui consiste à en l'ajout de au moins deux ressources dans les MRC pour renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs. Donc, c'est une somme maximale de 900 000 $ là, pour les exercices financiers 2021 à 2024-2025 qui peut être disponible pour les MRC ou pour les organismes là, dont la MRC a délégué la compétence là, en termes de développement local et territorial. Donc, j'aurais besoin d'une résolution là, pour la signature du protocole d'entente avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation.
Juste pour les fins des auditeurs, on rappelle que c'est un montant annuel de 200 000 $ pour l'embauche de deux ressources par année pendant une période. Alors, qui propose? Sarto et Yves Turgeon. On serait maintenant rendu priorité annuelle d'intervention 9.4.
Priorité annuelle d'intervention. Donc, les priorités annuelles d'intervention doivent être adoptées à chaque année. Là, pour, c'est dans le cadre là, de la reddition de compte que nous avons à faire dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 2, donc le nouveau FDT. Donc, à chaque année, là, on doit adresser nos priorités au ministère des Affaires municipales en fonction de nos enjeux. Comme vous pouvez voir, là, c'est nos quatre nouveaux enjeux qui avaient été soulignés là, lors de l'élaboration de notre planification stratégique. Donc, j'ai planifié ces priorités-là là, en fonction de nos quatre nouveaux axes.
Question ou adoption? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou si on va à l'adoption, qui est prêt à proposer?
Éric
et Yvon Dumont. Rapport annuel d'activité, point 9.5, Annick.
Même chose, rapport annuel d'activité 2020. Donc, ça fait suite là, également là, en lien avec la reddition de compte qu'on a à faire pour le Fonds Région Ruralité volet 2, comme je disais tout à l'heure, là, le nouveau FDT. Donc, à chaque année, là, c'est un rapport qui doit venir résumer l'ensemble des projets qui ont été financés là, par l'enveloppe là, du FRR. Nous, c'est dans le fond l'enveloppe locale et l'enveloppe régionale, là, les montants qu'on se donne à chaque année pour les projets. Il y avait une petite coquille là, au niveau de mon document à la page 5 là, en lien avec Collectivement vers la réussite. Ce n'est pas la Corporation de développement communautaire qui est bénéficiaire, mais c'est vraiment là, la SADC Bellechasse et de Chemin là, qui est mandataire dans ce dossier-là. Alors, vous avez l'ensemble là, des projets qui sont réalisés avec les sommes disponibles dans le cadre du FRR pour le financement de projets.
Donc, une résolution pour l'adoption du rapport afin de le transmettre au MAMACH. Qui est prêt à proposer? Bernard, appuyé par Jacques Bruno. Politique de soutien aux projets structurants 2020-2021 à
2024-2025. Annie? Politique de soutien aux projets structurants. Donc, on en a discuté là, en séance de travail. Donc, cette politique-là également fait partie de notre édition de compte là, en lien avec le Fonds Région Ruralité volet 2, qui est le nouveau FDT. Donc, on doit adopter cette politique-là annuellement. J'avais une résolution que je vous avais déposée. Suite à nos discussions, j'ajouterai un élément là, en conséquence, il est proposé à 1. D'adopter la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie et de 2. De procéder à la révision de la politique de soutien aux projets structurants lorsque les nouveaux indices de vitalité économique seront connus, comme on en avait discuté en séance de travail tout à l'heure.
Je le propose.
Sébastien.
Politique d'investissement.
Politique d'investissement, même chose. Là, ça fait suite à la reddition de compte qu'on a à faire dans le cadre du FRR volet 2. Donc, politique d'investissement, il n'y a pas de changement. Dans la version. Donc, c'est la même version que l'an dernier, mais on a une obligation d'adopter cette politique-là annuellement également.
Le propose.
Guylaine, appuyée par Jean-Yves Turmel. 9.8, le FRR, projets locaux, approbation probablement.
Oui, donc c'est deux projets qui sont déposés là, dans le cadre du FRR volet 2, mais plus pour les projets de chacune des municipalités. Donc, un projet qui a été déposé par la municipalité de Saint-Henri pour un projet de cabane de marqueur et un projet déposé par la municipalité de Saint-Henri de Bellechasse au niveau du remplacement d'un système d'éclairage du terrain de balle et fourniture et installation de grillage de sécurité à la patinoire.
Qui propose?
Sébastien.
Sébastien, appuyé par Yvon Dumont. Calendrier de conservation des documents, approbation, BANQ.
Oui, vous savez qu'on a conclu un mandat là, à la Société historique de Bellechasse là, en lien avec toute la gestion documentaire au niveau de la MRC de Bellechasse. Donc, l'objectif de ce mandat-là là, était de mettre à jour la politique de gestion des documents de la MRC, incluant le respect des exigences légales et des modalités de réponse aux demandes d'accès à l'information. Donc, en lien avec ça, là, c'est pour ça qu'on vous dépose la résolution ce soir, parce qu'elle doit être adoptée par le Conseil, justement, là, pour qu'on puisse déposer ce calendrier de conservation-là au niveau du BANQ, là, dans le fond, c'est la Bibliothèque des Archives nationales du Québec.
Manon propose.
Manon, appuyé par Luc Dion. Portrait transport de personnes en Chaudière-Appalaches.
Donc, c'est une demande d'appui là, au projet régional qui est présenté par l'Inter-CDC Chaudière-Appalaches. Dans le fond, c'est un projet là, qui vise, dans le fond, à dresser un portrait régional là, des services de transport de personnes sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. Donc, c'est un appui, dans le fond, à ce projet-là. Donc, c'est l'ensemble des CDC là, du territoire de la Chaudière-Appalaches qui se sont concertés pour mettre en œuvre ce projet-là. Donc, c'est vraiment un appui moral au projet.
Qui est prêt à proposer? Martin Lacasse, appuyé par David Christopher.
Monsieur le préfet, peut-être qu'on devrait souligner que Mme Aubin ne peut pas appuyer, qu'elle doit être en apparence de conflit d'intérêt.
Il n'y a pas d'intérêt financier, mais si Guylaine préfère se retirer,
Guylaine? Ben, tout à fait. Je vais vérifier auprès d'Annick, là, par rapport étant signataire de la lettre. Là. Fait que si on veut signifier mon abstention pour un intérêt particulier dans le projet, disons. Il n'y a pas d'intérêt pécunier, mais il y a un intérêt dans le projet.
C'est beau. Ça va être noté au procès-verbal, Guylaine. Merci. On serait rendu à sécurité incendie. Vous avez eu un beau petit rapport. Je suis sûr que vous l'avez appris tous par cœur, surtout pour vos municipalités. Alors, il y a un paquet de données là-dedans. Or, je ne sais pas, nous, on doit probablement l'approuver. Dominique, c'est-tu Dominique qui a ce dossier-là?
Non, je relais, dans le fond, par rapport au rapport annuel 2020. Donc, c'est vraiment un dépôt qui est fait ce soir pour que vous en preniez connaissance au niveau de vos municipalités pour l'adoption là, par vos conseils municipaux en mars pour respecter les échéanciers qui avaient été fixés au départ.
C'est bon. Donc, il va y avoir un petit avis aux municipalités avec la transmission pour être sûr qu'on comprend tous qu'on a une résolution passée d'adoption.
Oui, puis si jamais, par exemple, vous avez des commentaires par rapport à des informations qui seraient à corriger, là, n'hésitez pas à nous les faire suivre là, pour qu'on puisse rapidement donner une version révisée là, à l'ensemble des directeurs généraux là, de vos municipalités.
Parfait. On serait maintenant rendu au dossier information. C'est des dépôts de différents rapports. Encore une fois, je suis sûr que vous avez tous lu ça. Alors, 12.1, rapport annuel, transport de personnes, rapport qui est très intéressant en passant. Si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps de le regarder. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport-là? Sinon, vous pourrez toujours contacter, si vous avez des questions bien particulières, Mme Henry, Marjolaine Henry, responsable du transport, ou même Annick, qui supervise ce dossier-là. Mais prenez le temps de regarder les statistiques, tout ça, là. Et surtout, on fait quasiment un bilan des 10 dernières années. On voit la progression de ce service-là au fil des ans, là.
C'était peut-être chose à retenir, là, l'année 2020 quand même a eu des impacts importants au niveau du transport de personnes. Donc, vous allez voir les impacts là, de la COVID là, sur ce service-là là, pour l'année 2020. Puis, sachez qu'il y a des sommes qui vont être disponibles au niveau du ministère des Transports pour venir combler, dans le fond, ces déficits-là qu'on va faire au niveau des services parce qu'en raison du nombre d'usagers qui ont utilisé les services qui ont été vraiment en grande baisse pour l'année 2020, là, ça a des impacts financiers là, au niveau des organismes là, qui font du transport sur leur territoire.
Merci. 12.2, la TRESCA, la Table régionale de l'économie sociale de Chaudière-Appalaches. Or, c'est un bilan. On avait demandé, ça avait été déposé à la TREMCA et on avait demandé de soumettre un petit bilan un peu plus exhaustif pour le bénéfice des municipalités MRC. Or, ça vous a été déposé. Ça aussi, là, prenez le temps de regarder ça, puis de voir, de mesurer l'impact de l'économie sociale sur notre territoire, là. Je pense que c'est toujours un dossier important pour notre région. D'ailleurs, on va avoir peut-être une décision à prendre à la table régionale pour un support à cette organisation-là. Alors, prenez le temps de la regarder et si vous avez des questionnements, ben, vous avez, c'est Mme Céline Bernier, je pense, c'est ça, c'est toujours ça, qui s'occupe du suivi de ce dossier-là.
La décision, M. Filion. Mme Bernier vient de quitter ses fonctions, puis on a appris aujourd'hui son remplaçant, M. Lenz, je ne me souviens pas de son prénom, là, mais ça a circulé aujourd'hui. Là, que, il y avait un nouveau directeur à la TRESCA.
C'est très, très récent.
Oui.
Bon. Alors, vous prenez connaissance de ça. 12.3, le bilan 2020 des politiques familles et aînées. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Annick.
Non, c'est vraiment, c'est un petit document, là, plus un visuel là, avec les grandes lignes là, qui vous permet un peu de voir là, le bilan de réalisation donc, qui a été fait là, au cours de l'année 2020. Donc, on a essayé de le synthétiser. Là, dans le fond, c'est Mme Joël qui est responsable de ce dossier-là au niveau de la MRC et M. Lacasse là, est l'élu là, responsable aussi au niveau des politiques. Donc, c'est un petit résumé puis un petit clin d'œil à nos deux avatars là, pour qui vous pouvez voir les capsules là, qui sont réalisées, là, surtout en lien avec les réalisations qui ont été faites dans chacune de vos municipalités.
Parfait. On serait rendu au point, au dernier point.
Monsieur le préfet, si je peux me permettre juste une félicitation à Joël Roy-Boulanger puis l'ensemble, le président de ce comité-là aussi. Je trouve que c'est bien rendu dans un document très synthétisé, là, puis c'est intéressant de le voir qui circule aussi là, pour informer nos populations.
Très bien. Je pense que c'est noté. Puis prenez le temps, encore une fois, de le regarder si vous ne l'avez pas encore fait. On est rendu au dernier point, 12.4, projet éolien, redistribution de redevances.
Oui, dans le fond, c'est un montant de 80... Excusez-moi. C'est un montant de 82 503,75 qu'on a reçu pour le trimestre de octobre à décembre là, au niveau du parc éolien communautaire. Donc, au niveau de l'enveloppe régionale, ça va être un montant de 29 701,35 qui va être réservé. Et au niveau de vos enveloppes locales, c'est un montant de 44 552,3 qui va vous amener à avoir un chèque de 2227,60 pour chacune de vos municipalités locales. Je tenais bon de vous spécifier là, qu'au niveau, je vais vous transmettre les petits documents, là, mais au niveau de l'année là, 2020, là, c'est des profits bruts de 770 115 $ là, qui ont été réalisés. C'est certain qu'on avait un service de la dette à couvrir là, de 382 528 $ mais pour un profit net de 387 587 là, pour l'année 2020. Donc, c'est quand même un montant très intéressant. Donc, au niveau de vos enveloppes locales, là, c'est 209 296,98 qui va avoir été redistribué pour l'année 2020.
Question? Ça va? Quand on encaisse, c'est toujours agréable. Donc, on aurait terminé notre ordre du jour. S'il n'y a pas d'autre chose, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Il est 10h18, ça a quand même bien été. Bernard propose. Donc, c'est levé. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde et à la prochaine.
Bonne soirée, merci.